Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Ayons, ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, cette fois-ci, je vais éteindre mon téléphone avant. Alors, nous avançons dans la explication, donc, d'après les pères de l'Église, de l'Évangile de Saint Matthieu. Donc, je vous rappelle où est-ce qu'on en est dans les polycopiés. Donc, on a fini l'introduction, on est dans le polycopié sur Saint Matthieu, chapitre 1 à 5. Et on est en haut de la page 6 du polycopié. Alors, nous sommes dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ qui commence l'évangile de Saint Matthieu. Donc, je vous ai déjà expliqué que Saint Matthieu va beaucoup pousser sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez qu'il a écrit, son évangile d'abord pour les Juifs qui savaient que le Messie serait Dieu, mais qui n'arrivaient pas à comprendre justement que ce Dieu était aussi homme. Donc il va insister beaucoup sur cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour montrer que ce Messie était, comme l'avaient annoncé les prophètes, était la race de David. Alors, la phrase importante, c'est évidemment la dernière, donc en bas de la page 5. Je rappelle que sur le polycopié, donc vous avez le texte même de l'Évangile, donc ce qui est encadré à chaque fois, c'est le texte de l'Évangile directement. Comme ça, c'est plus facile pour suivre. Et le texte, c'est le texte de Fillon. Donc, chapitre 1, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc c'est évidemment la phrase importante. Je bouge ça. C'est la phrase importante, entre autres par le terme, j'en ai déjà parlé, on y reviendra. Les pères d'Église ont beaucoup insisté sur ce point. Le texte dit « Jacob engendra Joseph, époux de Marie ». C'est que les modernes nient ça et prétendent pratiquement tous que notre Seigneur Jean-Marie et Saint-Joseph n'étaient pas encore mariés, qu'ils étaient fiancés. Et ils le font, j'avais expliqué un peu la dernière fois, je crois déjà, ils le font justement pour essayer de justifier le fait que les gens peuvent vivre ensemble sans être mariés. En fait, ils étaient mariés, le texte en latin dit « desponsata », ou « desponsatus » en masculin, « sponsata » en féminin, c'est « époux ».« Sponsus »,« sponsa » en latin, c'est « l'époux » ou « l'épouse ». Épouse et l'époux. Donc, ils étaient mariés, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Mais ils étaient mariés. Alors, ce texte, évidemment, est très important parce qu'il montre donc, l'origine davidique, tant du côté de Marie que du côté de Joseph, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était très important pour les Juifs. Alors, vous avez un texte magnifique de Saint Bernard qui est cité par Cornelius à Lapide. Et aussi par saint Thomas d'Aquin, pas par les pères, parce qu'évidemment, saint Bernard était largement après les pères de l'Église. Les premiers pères de l'Église, donc c'était 3e, 4e, 5e siècle. Saint Bernard, c'est 11e siècle, je crois. Et donc saint Bernard, par contre, est cité par saint Thomas d'Aquin, cité aussi par Cornelius à Lapide, parce qu'ils étaient après saint Bernard. Et saint Bernard est lui-même considéré comme un père de l'Église. On dit que c'est le dernier père de l'Église. Après, c'est le docteur de l'Église. Bon, il y a un lien entre les deux. Hein. On peut être à la fois docteur de l'Église et père de l'Église. Hein. Donc Saint-Bernard a un sermon magnifique sur ce sujet. Il dit « Double merveille, double miracle », en haut de la page 6. « Dieu obéit à une femme, humilité sans pareil. Et une femme est à la tête de Dieu, dignité qui dépasse toute comparaison. » Donc, le Verbe s'est fait chair, Dieu devint homme, le Fils de Dieu se fait le Fils de la Vierge. Hein. Et c'est là, dit saint Thomas d'Aquin, ce qui fut la plus haute et la plus grande des œuvres de Dieu. Saint Augustin a une phrase un petit peu différente, très ferme aussi. Il dit l'homme, Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bon, évidemment, il faut la comprendre dans le bon sens. Mais c'est vrai que ce qu'a voulu le démon, c'était attirer l'image de l'homme, créer à l'image de Dieu, enfin l'âme de l'homme créée à l'image de Dieu chez Adam et Ève, attirer Adam et Ève et tous leurs descendants vers le bas, vers l'enfer. Donc Dieu va descendre en quelque sorte par son humanité, en prenant son humanité, c'est l'image des pères. Dieu accepte de se descendre lui-même jusqu'au niveau de l'homme, reprendre l'homme au fond du gouffre et le remonter à la surface. Voilà ce qu'il va faire. Et donc, il descend par son humanité et il remonte par sa divinité. Seulement, il ne faut pas distinguer les deux choses. Enfin, il faut distinguer les deux choses, mais on ne peut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu sans être homme, il est les deux à la fois. Et je vous l'ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas y revenir, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs sur ce sujet au début de l'histoire de l'Église, justement par des gens qui n'arrivaient pas à comprendre ça, qui disaient pas possible, ou il est homme ou il est Dieu, il ne peut pas être les deux à la fois. Et bien, il est les deux à la fois. Et il est à la fois Dieu, à la fois homme, il est Dieu sans, uni à l'humanité, sans rien perdre de sa divinité. Et il est homme uni à la divinité, sans rien perdre de son humanité. Donc il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Ce n'est pas une espèce de mélange des deux, comme disent certains, c'est une personne en deux natures. Double nature, nature divine, nature et nature humaine. Nature divine, il est vraiment Dieu, donc il peut nous sauver, parce que Dieu seul peut nous sauver. Nature humaine, il est vraiment homme, donc il peut vraiment mourir sur la croix. Alors il est évident que, encore une fois, là, il faut faire très attention et bien avoir l'humilité de justement de se cacher derrière le mystère, parce qu'on touche à un mystère. Hein. Comment est-il possible pour une même personne d'être à la fois humaine et divine? C'est un mystère insondable. C'est pour ça que c'est le plus grand mystère de la foi catholique, c'est le mystère de l'incarnation qui touche le mystère de la rédemption. En fait, il y a trois mystères, mais qui sont liés les uns à l'autre, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Donc, on peut vraiment utiliser, on a le droit d'utiliser la phrase de Saint Augustin, même si elle peut être interprétée de travers, c'est vrai, qui dit bien, donc l'homme, Dieu devint homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Donc l'homme est mis au rang des brutes, au rang des animaux, si vous voulez, Dieu va descendre avec son humanité et va charger, c'est l'image du bon samaritain, on verra ça plus tard, va charger sur sa propre monture l'homme qui est à moitié mort, qui est tombé au milieu de brigands, rappelez la parabole du bon samaritain qui est très connue, eh bien cette monture c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, on verra ça avec les pères plus tard. Donc c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc le bon samaritain qui représente le Christ va prendre l'homme qui est à moitié mort et le mettre sur sa propre monture. Donc il prend notre humanité pour pouvoir monter l'humanité jusqu'à la divinité, non pas en transformant l'homme, en faisant de l'homme un dieu, ce qui serait hérétique, mais en montant, en donnant à l'homme, en rendant à l'homme sa dignité d'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu parce qu'il a une âme, et à la ressemblance de Dieu parce qu'il a la charité en lui, l'état de grâce en lui, s'il vit en état de grâce. C'est pour ça que c'est un crime impardonnable, c'est un des multiples crimes de Bergoglio, de faire croire que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Parce qu'à ce moment, on détruit complètement la raison de l'incarnation. Si tous les hommes sont des enfants de Dieu, c'est ce que prêche Bergoglio à longueur de journée, hein, si tous les hommes sont des enfants de Dieu, et si non seulement il prêche que tous les hommes sont des enfants de Dieu, mais il prêche que la grâce est une partie de notre nature humaine. Donc d'une part, tous les hommes sont des enfants de Dieu, d'autre part, la grâce est une partie de notre nature, donc elle ne peut pas être détruite. Donc tous les hommes sont des enfants de Dieu et tous les hommes vont au ciel. Si tous les hommes vont au ciel, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il supporté la passion? Si tous les hommes vont au ciel, pourquoi n'a pas l'enseignement de l'Église sur le purgatoire, sur l'enfer, sur toutes ces choses-là? On détruit toute la foi catholique. Et c'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe, la foi catholique dans l'Église de Vatican II est complètement passée sous silence. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'Église de Vatican II et l'Église catholique soient une seule et même Église. C'est faux. Ce n'est pas une seule et même Église. Il y a deux Églises différentes, une Église humaine, une Église divine. L'Église humaine, c'est l'Église de Vatican II. L'Église divine, c'est l'Église catholique. Et donc, faire croire qu'on peut associer les deux choses, c'est un crime. Ça, c'est des énormes erreurs de Mgr Feuillet actuellement, de vouloir rester catholique tout en étant absolument lié par une espèce de convention avec Bergoglio. Enfin, c'est complètement. C'est de l'insanité, il n'y a pas d'autre mot. La folie. Alors, en associant donc sa nature humaine et sa nature divine, donc c'est ce que dit en fait la phrase. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc Saint Matthieu, qui écrit ce texte, dit bien que Jésus est né de Marie et de Joseph. Donc Joseph comme père putatif, pas comme père physique, bien sûr. Très Sainte Vierge Marie comme épouse du Saint-Esprit, donc comme mère physique du Christ, est né Jésus. Et comme les Juifs à qui il parlait savaient tous que le Messie devait être Dieu aussi en même temps, et bien donc, il associe donc l'humanité et la divinité en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'il va faire, surtout dans son évangile, en disant, cet homme qui va prêcher en Galilée, cet homme qui va faire des miracles en Galilée, qui va remplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament, en Judée, en Samarie, en Galilée, et bien, est non seulement Dieu, mais homme. Alors, là vous avez d'autres textes des pères de l'Église, c'est surtout saint Thomas d'Aquin. Par cette union donc de la divinité et de l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est ce que dit ici le texte, devant une telle merveille, les anges et tous les saints ont toujours été dans l'admiration. C'est la plus belle chose qui ait jamais été faite, la plus belle créature de Dieu, on dit. Et c'est vrai, souvent les gens nous disent, la plus belle créature de Dieu, c'est l'âme de la Sainte Vierge. C'est faux, la plus belle créature de Dieu, c'est l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est créé, attention. Donc l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que l'âme de notre Seigneur Vierge Marie est d'une beauté extraordinaire, mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est encore bien plus belle, infiniment plus belle que l'âme de notre Seigneur Vierge Marie, parce que l'âme de notre Seigneur Vierge Marie est une âme humaine, et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est une âme humaine aussi, mais dans une personne qui est divine, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc il y a...
l'âme de l'esprit, en disant que l'âme était humaine mais que l'esprit était divin,
par exemple. C'est un peu trop dangereux de dire ça. L'âme et l'esprit, strictement parlant, c'est un peu des synonymes, en français au moins. Hein, en français au moins. Mais, donc il faut dire, c'est ce que disent les pères, que la plus belle créature de Dieu n'est pas l'âme de notre Seigneur Jésus-Marie, mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, il faut que les choses soient claires. Quoi. Parce que vous avez des catholiques, beaucoup de catholiques qui pensent être des docteurs en Israël, et qui me sortent que c'est pas possible, parce qu'en Dieu tout est divin. Non, c'est faux. Dans la personne, en Dieu tout est divin, bien sûr, mais dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est divine, deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a des choses créées. Ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. Il y a des choses créées, l'humanité est créée. Alors, je me dis, mais alors ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu qui n'est pas éternelle. Non. L'humanité de Dieu n'est pas éternelle. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas éternelle. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, est éternelle. Dieu a toujours été. Mais l'humanité n'a pas toujours été. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'union de son âme et son corps, les deux choses, l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ces deux choses ont été créées par Dieu de toutes pièces au moment de l'incarnation. Alors, de dire, mais il y a une chose incompréhensible. Ben, évidemment, c'est incompréhensible, c'est un mystère. Le mystère, c'est ça. Une chose qu'on ne peut pas comprendre ici-bas, même au ciel, on ne pourra pas comprendre complètement. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Et c'est ça un petit peu le problème avec l'homme moderne, il veut absolument tout expliquer. Et comme il ne peut pas tout comprendre, parce qu'il y a des mystères, l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité sont des mystères, alors du coup, ben, ils rejettent tout parce qu'ils ne comprennent pas. Alors les pères ont insisté, ont utilisé quatre mots, puissance, sagesse, justice, bonté. C'est en haut de la page 6, le texte magnifique des pères. Donc, par les mystères de l'incarnation, parce que c'est de ça auquel Saint Matthieu fait allusion, Jacob engendra Joseph, donc Jacob c'est le grand-père en quelque sorte de la, de l'enfant Jésus, l'époux de Marie engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc Joseph est l'époux de Marie, et de laquelle, vous voyez, le texte dit bien de laquelle, c'est-à-dire
pas desquelles
exactement, de laquelle Jésus est né simplement de Marie. Saint Joseph n'est pas le père physique, mais que le père putatif, qui est appelé le Christ. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, donc l'union dans la même personne des deux natures humaines et divines. Et donc, ceci représente l'acte de la plus haute puissance, de la plus haute sagesse, de la plus haute justice et de la plus haute bonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, de Dieu pour nous. D'abord, la plus haute puissance, parce que, donc, par cette incarnation, Dieu va unir l'homme et la divinité, l'argile et le verbe, la terre au ciel. Donc il rétablit le pont, si vous voulez, qui existait entre le ciel et la terre, pont qui a été rompu par Adam et Ève et sa désobéissance. Ensuite, plus haute sagesse, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus extraordinaire que ce mystère, car lui qui dans sa divinité ne pouvait souffrir pour nous racheter, a revêtu dans le sein de la Vierge la chair pour qu'il puisse souffrir et satisfaire à son Père pour nos péchés. C'est-à-dire, le péché d'Adam et Ève étant quelque chose par nature qui est infini, dans le sens que s'opposer à une nature divine, c'est s'opposer à une nature infinie, et donc il y a une partie infinie dans le péché. Le péché est donc quelque chose d'infini, puisque ce péché est quelque chose d'infini, eh bien, il faut une réparation infinie. L'homme n'est pas capable d'apporter une réparation infinie, puisque l'homme est fini. Est limité par définition. Quelque chose de limité ne peut pas donner quelque chose d'illimité. Quelque chose d'illimité ne peut être donné que par un être qui est infini lui-même. Donc Dieu étant infini, la seule solution, c'est que Dieu puisse racheter. Donc c'est là. Et comment arriver à comprendre qu'un Dieu puisse racheter? Il fallait qu'il puisse racheter l'homme en faisant comprendre à l'homme les conséquences de son péché et tout ce qui s'ensuit. Donc Dieu, si vous voulez, a demandé dans toute éternité, a demandé à son propre fils, donc en quelque sorte s'envoie lui-même dans la deuxième personne, il demande à son propre fils d'accepter de prendre une nature inférieure et une nature finie pour que cette nature finie puisse mourir, puisque Dieu ne peut pas mourir. Donc c'est l'acte de la plus haute sagesse qui ait jamais été fait dans le monde, c'est-à-dire la sagesse de l'incarnation, qui va amener à la rédemption. Enfin, troisième point, la plus haute justice, parce qu'il fallait rétablir la justice. Encore une fois, un homme ne peut pas rétablir une justice si le péché a en soi, en lui-même, quelque chose d'infini. Donc il fallait que l'homme qui est fini, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, soit unis à quelque chose d'infini, c'est-à-dire à la divinité, pour pouvoir attraper le péché d'Adam et Ève. Donc on doit dire que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de fini, dans le sens que c'est quelque chose de créé. Toute chose créée est finie, est limitée. Notre Seigneur Jésus-Christ est limité dans le sens, il est limité dans le temps. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, n'a pas toujours existé. Donc il y a un point de départ, un point d'arrivée. Bon. Alors, il y a un point de départ qui est l'incarnation, le 25 mars, dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie, au moment où la Très Sainte Vierge Marie a dit oui, à ce moment-là, l'incarnation est enclenchée. Mais il n'y a pas de point, il y a un point d'arrivée qui est le point d'ascension, si vous voulez, après la résurrection, il y a l'ascension, il monte au ciel, mais cette humanité, unie à la divinité, va rester au ciel pour toujours. Donc l'humanité. Mais il ne faut pas croire non plus que l'humanité étant remontée au ciel, elle va disparaître. Non, elle reste au ciel.
Avec son corps glorieux.
Avec son corps glorieux, avec le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ étaient toujours unis à la divinité, même après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On verra ça plus tard, mais au moment où le mystère de la rédemption s'opère, le vendredi saint à 3h de l'après-midi, donc il y a séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais le corps et l'âme restent unis à la divinité. Donc l'âme qui va descendre au limbe, l'âme des patriarches, pour réconforter ceux qui attendaient la résurrection de notre Seigneur depuis des millénaires, pour certains d'entre eux, eh bien cette âme est unie à la divinité. Et c'est un mystère encore, comment l'âme d'un Dieu, mais non, c'est pas l'âme d'un Dieu, c'est l'âme unie à la divinité, parce que c'est l'âme d'une personne qui était Dieu, et qui est Dieu toujours. Et le corps qui reste qui reste dans le tombeau pendant 3 jours avant la résurrection est aussi uni à la divinité. Alors, donc c'est, nous disent les pères, l'acte de plus haute justice. Donc l'incarnation représente l'acte de plus haute puissance, de plus haute sagesse, de plus haute justice et de plus haute bonté, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc quand on médite sur le mystère de l'incarnation, on comprend qu'il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a pour ses enfants. Et donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a fait un acte d'une valeur inouïe de ce genre, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est remercier et commencer à changer un peu de vie pour qu'il ne soit pas venu pour rien. Quoi. C'est comme ça, on verra ça plus tard, mais c'est comme ça que le démon a essayé dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ de pousser au désespoir. Et c'est la passion. La passion, l'acte de la, si vous voulez, de l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. C'est le démon qui susurre à l'oreille de notre Seigneur Jésus-Christ comme homme qu'il meurt pour rien. En gros, il lui dit, même si le démon n'avait pas la certitude qu'il était Dieu, c'est pas très bien. Le démon lui dit, tu meurs pour ces gars, mais il s'en fiche. De toute façon, c'est moi qui vais les avoir. Ils vont quand même tomber dans mon escarcelle. Et c'est là où il y a cette phrase extraordinaire de la part d'un homme Dieu, mon âme est triste à en mourir. N'oubliez pas que la tristesse, c'est le premier signe d'une désolation. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ est tombé en désolation très forte au jardin des Oliviers, à tel point que Dieu le Père a été obligé d'envoyer l'ange consolateur. L'ange consolateur revient, on verra ça plus tard avec la passion, mais l'ange consolateur arrive donc et va réconforter le sacré cœur qui souffre, dans son humanité évidemment. Et les pères de l'Église pensent qu'il a réconforté et réconforter notre Seigneur Jésus-Christ en lui présentant la vision de l'âme de la Sainte Vierge. Et la beauté extraordinaire de l'âme de la Sainte Vierge a réconforté notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Donc c'est à la fois la plus haute puissance, l'acte de plus haute sagesse, de plus haute justice, de plus haute bonté, de plus grande bonté, parce qu'il s'annihile lui-même jusqu'à devenir comme un ver de terre. Donc, ensuite, vous avez cette fameuse phrase de saint Augustin que j'ai déjà citée souvent. Il s'est fait le fils de l'homme pour pouvoir faire de nous les fils de Dieu. Il naquit sur la terre pour que nous puissions naître au ciel. Il y a ces formules lapidaires des pères de l'Église. Saint Thomas est maître dans ces genres de formules. Il y a des formules comme ça, très courtes. Et en quelques mots, il résume toute la théologie de l'Église. Donc, c'est deux phrases magnifiques. Saint Augustin, il s'est fait fils de l'homme pour pouvoir faire de nous les fils de Dieu. Donc, il s'est fait enfant des hommes pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et il naquit sur la terre pour que nous puissions être au ciel. Donc, il rétablit le contact, si vous voulez, qui était coupé entre Adam et Ève et Dieu. Alors, saint Augustin donc pense, alors ça c'est pas tous les pères, c'est saint Augustin qui pense que la manifestation de toutes ces générations, donc qui sont indiquées là dans le début de l'évangile de saint Matthieu, donc la manifestation de ces générations, 42 générations en fait, représente la rémission totale et l'abolition de tous les péchés. Donc c'est le symbole de l'abolition et la rémission de tous les péchés. Donc il y a trois groupes de 14 générations, ça fait 42 générations. Bon. Alors, il parle aussi de 77 générations. Voilà pourquoi le Christ, dit saint Augustin, a commandé que le pardon soit accordé au Père dans l'erreur, au frère dans l'erreur 77 fois. D'accord ? Donc, ça dépend comment on compte les générations. On regarde ça avec les différents pères. Alors, donc, cette génération, si vous voulez, qui a pour but de montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, vient bien de la race de David, conformément aux prophéties d'Ancien Testament, cette généalogie a aussi pour but de nous montrer que Dieu a mené le peuple juif à travers toutes les difficultés depuis la création, c'est-à-dire Adam et Ève, 5200 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, 5232 ans ou 33 ans après la création du monde, après Adam et Ève. Alors, voilà ce que disent les pères. Par toutes ces générations, le Christ veut passer en revue la triple condition du peuple juif, la fin de chaque série correspondant à un changement dans l'État et le gouvernement des Juifs. Donc il y a trois groupes de générations. Premier groupe qui va correspondre à l'action des patriarches, hein, patriarches des juges, donc il y a Othoniel, Gédéon, Samson, Élie, Samuel, etc., donc qui présidait sur Israël depuis le premier patriarche qui est Abraham. Donc Abraham, premier patriarche qui est Abraham, donc Abraham jusqu'à David. Donc en gros c'est 1000 ans, 10 siècles. Abraham, 2000 ans avant notre Seigneur. David, 1000 ans avant notre Seigneur. C'est un peu les chiffres. Encore une fois, l'Église ne s'est jamais prononcée sur l'infaillibilité de ces chiffres. Attention. Cependant, c'est les chiffres donnés par les pères de l'Église. Donc, je vous les répète parce qu'il faut bien les mettre dans la tête pour faire un petit peu de généalogie. Donc, 5200 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, création d'Adam et Ève. 3000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, le déluge. 2000 ans, Abraham. 1000 ans, David. D'accord ? Alors, au début, il y a un État quasi démocratique. Ensuite, il va y avoir une État monarchique, avec les rois, ce qu'on appelle les rois. Commencé par David et ses descendants. Donc, David est roi d'Israël, jusqu'à la captivité de Babylone. Bon, même les scientifiques honnêtes ont du mal à situer exactement la date de la captivité de Babylone, vraisemblablement en l'an 597 avant notre Seigneur. Donc, et ça a duré 70 ans. Donc, les 70 jours du carême, qui sont encore symboliques. Hein. Parce que souvent, les gens nous demandent, monsieur l'abbé, vous parlez toujours de chiffres, mais Septuagésime, c'est 70 jours. Septuagésime, c'est 7 jours après, c'est déjà, on est passé à 60, et après, il n'y a plus que 7 jours, et on descend encore à 50, ça va un peu vite, votre comptabilité. Et oui, mais c'est des symboles. Beaucoup de ces chiffres sont symboliques. Le chiffre 7... Alors on verra ça plus tard. Le chiffre 7 est un symbole de perfection. Hein. Je vais donner un exemple tout simple. Et puis on reverra ça parce qu'on va en parler après. Beaucoup de gens demandent un chiffre que tout le monde connaît, c'est le chiffre de la bête. 666. Tout le monde connaît ça, même les païens, tout le monde connaît ça. Bon. 666, les gens se demandent, mais pourquoi 666? Ben, tout simplement parce que 7, c'est la perfection. 6, c'est donc 7 moins 1, c'est donc l'imperfection. 3, c'est le chiffre de la totalité. Donc 3 fois 6, c'est la totalité de l'imperfection. Et on tombe sur le chiffre de la bête. Bon, il y a d'autres, c'est pas la seule explication, hein, il y a d'autres explications. C'est pour ça que l'Église ne sait jamais, dans toutes ces mathématiques, si vous voulez, le plus fort, c'est Saint-Augustin. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, parfois on verra que Saint-Augustin, il n'a pas toujours été suivi là-dedans. Les pères ne sont pas d'accord, parce que vous avez... différents pères qui interprètent les chiffres, chacun avec son idée propre. Bon, il faut respecter tout ça, bien sûr, mais c'est pas de foi. Le sens n'est pas de foi. Encore une fois, l'Église ne s'engage pas quand elle n'est pas sûre. D'accord ? Donc, la deuxième étape, c'est l'étape monarchique. Donc, 597, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à la captivité de Babylone, donc première étape, c'est depuis... Le premier patriarche, en fait, depuis Adam jusqu'à David. D'accord ? Donc, jusqu'à l'an 1000, donc depuis 5200 ans avant notre Seigneur jusqu'à l'an 1000, David. Deuxième étape, l'étape monarchique. Depuis l'an 1000 jusqu'à la captivité de Babylone. Alors, ce qu'on sait sur la captivité de Babylone, ça a duré 70 ans. En fait, il y en a eu deux, hein, mais en gros, 70 ans, à partir de 597. Sous Nabuchodonosor II, qui était roi de Babylone. Et enfin, troisième étape, depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, ce qu'on appelle l'étape aristocratique. Alors ça, c'est les pontifes. Donc l'étape démocratique correspond au patriarche, l'étape monarchique correspond au roi, l'étape aristocratique va correspondre au pontife. Bon, c'est surtout l'histoire des Maccabées, depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ. Alors, c'est intéressant de voir dans ce détail, hein, c'est un détail en matière politique, que l'Église catholique, si vous voulez, en soi, je dis bien en soi, n'a jamais condamné un système politique déterminé, sauf le communisme, en tant que intrinsèquement pervers, sont les mots du pape Pie XI, et le capitalisme en tant que tel, qui est le libéralisme poussé à l'excès, qui correspond à l'adoration de l'argent. Bon. Donc en soi, ça c'est très important parce qu'on me l'a beaucoup reproché. On dit, ouais, la belle affaire, vous tapez tout le temps sur la République, mais l'Église n'a pas condamné la République. C'est vrai. Et quand les gens me disent ça, je dis, monsieur l'abbé, vous êtes tout le temps, vous êtes trop anti-républicain, vous refusez de voter, vous n'avez pas de carte d'électeur. Or, l'Église catholique n'a jamais condamné la République. Je leur dis toujours, mon héros politique, c'est un républicain. Il était président de la République, c'est Garcia Moreno. Président de l'Équateur, il était président de la République. Donc, ce n'est pas la République en tant que telle. Il y a plusieurs républiques, il y a des républiques, une république en Italie, des républiques du nord de l'Italie, par exemple les républiques italiennes, en soi c'est pas quelque chose de mauvais. Les républiques suisses, la Suisse en fait c'est chaque état, chaque canton c'est une petite république, l'Église n'a jamais condamné ça, donc il faut faire un petit peu attention aux mots. Je suis absolument opposé à la République française à cause du caractère laïque de la République française. D'accord ? Voilà, là c'est une république laïque à cause du laïcisme de la République française d'une part, et d'autre part à cause de l'anticatholicisme, je dirais viscéral de la République française. La République française est pour moi quelque chose de complètement pourri, à cause justement de ce fait qu'elle soit laïque et anticatholique.
D'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si je vais dire une bêtise ou pas, mais je crois que la dernière république catholique, il n'a plus qu'une, c'est l'Argentine.
Ils ont fait sauter ça aussi, parce qu'avant, en Argentine, il y avait encore un article de la Constitution qui disait que le président devait être catholique. Et c'est Paul VI qui a réussi à faire sauter ça par ses nonces. Ils sont complètement fous. Okay. Donc, ce que je voulais dire ici, ça c'est important, c'est à mon avis le point à comprendre, c'est que l'Église en tant que telle n'est pas contre la démocratie, la monarchie, l'aristocratie, quand c'est bien compris. Bon. Saint Thomas a un texte quelque part où il dit que la démocratie est quelque chose de magnifique à condition qu'il n'y ait pas eu de péché originel. S'il n'y a pas eu de péché originel, évidemment, il y a des principes pareils, on va loin. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Il dit que la démocratie, vu le péché Adam et Ève, est devenue quelque chose de complètement fou. Bon. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas du tout ce qu'est la démocratie. Ils pensent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, ce qui est complètement faux. La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple. Je parle de la démocratie moderne. Je ne parle pas de la démocratie dont il est ici fait question, l'état quasi-démocratique, sous les différents patriarches, je ne parle pas de cette démocratie-là. La démocratie dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée en France, par exemple, actuellement, c'est le pouvoir du nombre, c'est pas le pouvoir du peuple, qui n'est pas du tout pareil. On essaie de nous faire croire que le nombre fait la vérité. Et ça, c'est inadmissible, c'est anticatholique à fond. Ça, c'est condamné par l'Église. Bon. C'est pareil pour la monarchie. Et c'est pas parce qu'on constate, on est bien obligé de constater que dans l'ordre monarchique en France, dans l'histoire de notre pays, on voit très bien que la monarchie est associée en général à des très grands saints. Bon, ou très souvent en tout cas, ce qui n'est pas le cas du tout, que la République, depuis la proclamation de la République française, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de présidents de la République qui étaient canonisés par l'Église. Par contre, dans l'histoire de la monarchie française jusqu'à la Révolution française de 1789, on trouve beaucoup de rois qui ont été canonisés par l'Église. Hein, que ce soit Charlemagne, que ce soit Saint-Louis, que ce soit... vous avez toute une série de reines qui ont été canonisées par l'Église, une série de princes qui ont été canonisés par l'Église, qui étaient dans un système monarchique. Donc. Enfin, troisième étape, le système aristocratique, c'est le pouvoir des meilleurs. D'accord ? Donc il y a du pour et des contre pour chacun de ces systèmes. Donc en tant que tel, l'Église respecte la destination politique, le choix politique de chaque pays. Bon. C'est aussi une des bêtises actuelles du monde moderne, de croire que l'unique, c'est ce que croient pratiquement tous les politiciens du monde entier aujourd'hui, ou presque, à peu de choses près, au moins en France et dans les pays civilisés, et ils pensent que le unique système politique acceptable, c'est la démocratie. Eh bien, c'est complètement idiot. La monarchie a toujours été du goût de l'Église bien plus que l'aristocratie ou que la monarchie. Donc, mais enfin, ce que le père va l'expliquer, c'est que ces trois états différents, donc l'état démocratique, l'état monarchique, l'état aristocratique, montrent que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, utilise des gens qui ne sont pas forcément des saints, hein, que ce soit les patriarches ne sont pas tous des saints, hein. Il y a des patriarches qui ont fait des vertes et des pas mûres, hein. Moi, je pense à Judas, par exemple, Judas et Tamar, avec l'histoire avec Judas qui était des fils d'Isaac. bon, qui est allé voir une prostituée, etc. Non, c'est pas des choses à faire. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des saints. Mais le bon Dieu, si vous voulez, est venu pour attraper les pécheurs. Et donc, dans cette généalogie, il y a des pécheurs qui interviennent. C'est ce que j'ai déjà expliqué auparavant. C'est pour ça qu'on trouve des noms comme les allusions qui sont faites à Bethsabée, par exemple. La femme, qui est d'ailleurs femme illégitime de David, bon, qui est tombée dans l'adultère avec David et qui a accepté l'assassinat de son mari, hein, c'est Uri. Donc, c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin, on verra ça plus tard, mais saint Thomas d'Aquin pense que le meilleur gouvernement, c'est un mélange des trois. Un gouvernement où il y a un certain niveau, le niveau élevé, la monarchie, en dessous l'aristocratie et en dessous la démocratie. Et ça, c'est très vrai. Il y a des textes magnifiques, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, ce n'est pas le sujet du cours. Il y a des textes magnifiques de saint Thomas qui montrent justement très bien qu'un état proche de la perfection, c'est justement une association des trois. En bas de la pyramide, une certaine forme de démocratie. Je donne un exemple, par exemple, pour nommer le maire d'un village. Bon, tout le monde se connaît dans le village, on procède à une élection démocratique pour nommer le maire du village. L'Église n'a jamais rien dit contre ça. Hein, j'ai jamais rien dit contre ça, parce que tout le monde se connaît. Bon. Qu'après, qui est ce qu'on appelle un conseil des sages, le Sénat, en principe, ça devrait être ça. Le Sénat en France, c'est le conseil des sages. Ça, c'est l'aristocratie en tant que telle. Il est un peu normal qu'il y ait un groupe des gens qui sont les mieux placés pour pouvoir justement prendre en charge la politique du pays. Donc, ce groupe, ce qu'on appelle le groupe aristocratique, c'est le pouvoir des meilleurs. Et au-dessus, l'autorité du roi. En principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si le chat vous gêne, vous... Il y a un chat qui écoute le cours de l'exégèse. C'est pas mal, hein? Bon. Alors, saint Matthieu donc explique, c'est la conclusion de saint Matthieu, donc on est au milieu de la page 6 dans le polycopier. Saint Matthieu explique donc que cette triple condition du gouvernement du peuple fut changée trois fois et sera changée une quatrième fois par le Christ. Et finira par le Christ qui nous apporte un royaume éternel car il va changer l'état de l'humanité. Donc en fait, il y a cinq étapes. Il y a l'état démocratique, l'état monarchique, l'état aristocratique, l'état du gouvernement avec notre Seigneur Jésus-Christ et enfin l'état du gouvernement parfait au ciel. Et c'est qu'au ciel qu'on aura ce gouvernement parfait, bien sûr. Bon. Donc, à partir du moment où notre Seigneur Jésus-Christ arrive, avec l'incarnation, avec la rédemption, donc à ce moment-là, si vous voulez, tous ces intermédiaires politiques, l'état démocratique, monarchique, aristocratique, je dirais, deviennent caduques, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va nous amener une autre conception de l'humanité, et comme il est Dieu, eh bien, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va fonder par son Église un autre système politique qui est le système politique de l'Église. Quand les modernes nous disent que l'Église n'a jamais eu un système politique préféré, c'est faux. Il y a une politique de l'Église, ça annonce ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la prédication de notre Seigneur. Placer tout le monde sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'a écrit magnifiquement Saint Pédis, et c'est pour ça que Saint Pédis avait pris comme petite phrase qui représentait, il y a un terme pour ça, comme phrase qui représentait tout ce qu'il voulait faire, qu'il avait inscrite sur son blason.
Slogan.
Pas vraiment un slogan, un autre terme, je le bout de la langue, mais ça ne revient pas. Il avait pris Omnia instaurare in Christo, tout resterait dans le Christ. Et tout resterait dans le Christ, ça veut dire tout récapituler dans le Christ. Et récapituler dans le Christ, un mot français qui a une origine latine, caput en latin, c'est la tête. Hein?
Pas de devise.
Le quoi?
Le slogan là.
Ouais.
C'est pas devise ou.
Une devise, oui, une devise, c'est ça, une devise, oui. Donc la devise de Saint-Pédis, Omnia instaurare in Christo, tout récapituler in Christo, il y a toute l'œuvre de l'Église, toute l'œuvre missionnaire apostolique de l'Église depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps, sera de tout instaurer sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit le roi de la création. Alors que les républiques, la République française par exemple, on voit très bien aujourd'hui, n'a qu'un but en tête, couper l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, couper l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ et instituer un esclavage par l'homme. L'homme qui devient un loup pour l'homme, justement, devenant le roi de l'homme. D'accord ? Donc, à partir de la venue du Christ, donc, toutes les nations vont commencer à obéir au Christ comme leur juge, leur roi et leur pontife. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, encore une fois, on va en parler pendant des heures parce que ce n'est pas le sujet directement du cours, mais le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le système politique de l'Église d'aujourd'hui. Le système politique de l'Église que l'Église veut essayer d'instituer, non pas par obligation, on ne peut pas le faire par la force, mais par la douceur, par la charité de ces missionnaires, justement, pour instituer, essayer d'instituer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi de la société. Roi de la société par droit de nature et par droit de conquête. Par droit de nature parce qu'il est créateur de tous les hommes et par droit de conquête parce qu'il est rédempteur de tous les hommes. Donc Dieu étant notre rédempteur et étant notre créateur, nous avons une double obligation de le reconnaître comme notre roi. Alors évidemment, quand on dit ça aux modernes, je ne décris plus toi tout de suite parce qu'ils n'admettent pas ça. D'accord ? Donc, comme les juges, les rois, les pontifes figuraient la dignité du Christ, le premier d'entre eux fut toujours un homme qui en était un symbole évident comme le premier des juges. Les juges, le premier des rois, le premier des pontifes, etc. Ça ne veut pas dire que ces exemples que donne la Sainte Écriture sont des exemples moraux, parfaits, ils ne sont pas forcément des saints. Encore une fois, David, il est canonisé par l'Église parce qu'il s'est converti, Dieu merci, mais il avait des vertes et des pas mûres au moins au début, notamment par son péché d'adultère, son péché de meurtre. Mais vous avez beaucoup des exemples qui sont donnés par l'Écriture sainte qui ne sont pas forcément des exemples à suivre sur le plan moral, mais qui symbolisent quelque chose. C'est pour ça que l'Église a toujours interdit la lecture de l'Écriture sainte sans note explicative, pour éviter de scandaliser les gens. Imaginez que vous faites lire, je sais pas, l'exemple que je donne tout le temps, imaginez que vous faites lire le Cantique des Cantiques à un jeune de 18 ans, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pratiquement pornographique. C'est érotique. Bon, pourquoi? Parce que le Cantique des Cantiques est un symbole d'autre chose, c'est une allégorie. D'accord? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va venir, si vous voulez, à la suite d'un long chemin, à partir des juges, des rois, des pontifes, pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces 42 générations, donc on trouve 3 fois 14 générations, donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, et 14 générations depuis la captivité de Babylone jusqu'à l'arrivée du Christ. Donc 3 fois 14, ça fait 42. Donc ces 42 générations correspondent aux 42 stations des Israélites dans le désert. C'est quand ils ont quitté l'Égypte, donc ils sont révoltés contre l'autorité de notre Seigneur, l'autorité de Moïse surtout, et ont fait des vertes et des pas mûres. Hein. Aaron a fait un, qui était un des chefs religieux, juste après, deuxième en commande derrière Moïse, a commencé par faire un bœuf, un veau d'or, enfin ils ont tout fait quoi. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va les balader dans le désert, et ils vont tous mourir sauf deux. Sauf Caleb et Josué, tout le monde va mourir dans le désert en punition de tout cela. Donc la promesse demeure, la promesse de la terre promise demeure, mais seuls Josué et Caleb vont pouvoir l'obtenir. Et ensuite, seuls Josué et Caleb, de ceux qui ont quitté l'Égypte, ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb, même Moïse va voir la terre promise, mais ne va pas y pénétrer. Donc, ces 42 générations donc, correspondent aux 42 stations des Israélites dans le désert, donc pratiquement ils ont passé 40 ans dans le désert, par lesquelles ils arrivent au pays de Canaan promis à Abraham. De même, par les 42 générations, nous arrivons au Messie, le Christ qui fut promis au même Abraham, nous conduit au pays des vivants, promis au sein du ciel. Donc la pèlerination, si vous voulez, des Hébreux qui quittent l'Égypte pour aller vers la terre promise, représente la pèlerination de tous les hommes. Et nous aussi, malheureusement, comme les Hébreux, on n'est pas plus malin qu'eux, on se révolte contre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au lieu de prendre la ligne droite pour aller au ciel, le bon Dieu est obligé de nous faire attendre pendant des années, justement, parce que nous nous révoltons contre notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce texte. Ensuite, verset 17, chapitre 1, verset 17. Donc on est en bas de la page 6, encore une fois, je vous rappelle que les cadres, j'ai mis une police différente pour l'écriture, pour justement bien distinguer les choses. Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 1, verset 17. En tout donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, 14 générations. Depuis la déportation de Babylone, 14 générations. Donc au début, première étape, j'ai déjà expliqué, c'est les juges. Deuxième étape, les rois. Troisième étape, les pontifes. D'accord ? Donc la première étape, si vous voulez, l'étape des juges, va correspondre à l'étape démocratique, si vous voulez. Représente les hommes avant la loi. Nous y trouvons donc les fidèles observateurs de la loi naturelle, Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait une loi naturelle pour tout le monde depuis le début, mais la loi juive qui est arrivée après n'était pas pour tout le monde, parce qu'elle n'était pas pour les premiers qui se guider par la loi naturelle seule. Deuxième étape, c'est sous la loi. Donc avant la loi, sous la loi, puis la grâce. Donc il y a trois étapes. Avant la loi, pour les tout premiers patriarches, avec la loi, pour tous les hommes qui ont vécu justement sous la loi des Juifs. Merci. Ensuite, la loi de la grâce, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quatrième étape, la gloire au ciel. Donc, avant la loi, sous la loi, avec la grâce, avec la gloire. Deuxième étape, donc on est en page 7 maintenant, en haut de la page. Donc la seconde série, donc de la transmigration de la transmigration de Babylone jusqu'à attends, je ne dis pas de bêtises, transmigration de Babylone, donc deuxième étape, c'est-à-dire transmigration de Babylone, depuis David jusqu'à la transmigration de Babylone, c'est ça. Donc c'est les hommes qui ont vécu sous la loi, qui sont donc soumis à la loi juive. Cette loi juive qui est devenue mortifère depuis l'arrivée de notre Seigneur, attention. Troisième étape, donc, depuis la transmigration de Babylone jusqu'au Christ, depuis David depuis la captivité de Babylone jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, troisième étape, c'est la vie de la grâce. Les hommes de la grâce se terminent au Christ qui est l'auteur de la grâce. Donc, cette délivrance de la captivité de Babylone représente l'affranchissement de l'esclavage du démon dont Jésus-Christ nous a délivrés. Donc, l'esclavage de Babylone, si vous voulez, c'est l'esclavage du démon. Et le devoir d'État des Israélites, des Hébreux, pardon, à Babylone, durant leur captivité en Babylone, à Babylone, a été de ne pas se laisser contaminer, justement, par les principes des Babyloniens. Malheureusement, la plupart sont fait laisser contaminer. Et donc, troisième étape, maintenant, donc c'est la vie de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ, on est en plein dedans. Et ceci prépare la quatrième étape, qui est la vie de la gloire du paradis, après la mort, pour ceux qui vont au ciel. Alors, là, j'ai donné un exemple, page 7, donc deuxième paragraphe. C'est un Saint-Augustin, donc justement, qui essaye d'analyser un petit peu ces chiffres, donc 3 fois 14 générations égale 42 générations. Donc, qu'est-ce que représentent ces 14 générations? Donc, lui, il dit, le chiffre 10 correspond aux 10 commandements. Le chiffre 4 correspond aux évangiles. D'accord? Donc, le chiffre 3 correspond à la Sainte Trinité. Donc, c'est 3 fois 10 plus 4. Donc, Sainte Trinité 3 fois, 10 les commandements, 4 les évangiles. On arrive à 42 générations. D'accord ? Donc, voilà le texte. L'évangile compte 14 générations parce que le nombre 10 signifie le décalogue. Le décalogue, c'est les 10 commandements. Et le nombre 4, les 4 évangélistes. Et ainsi se trouve figuré le parfait accord de la loi avec l'évangile. Le nombre 14 se trouve multiplié 3 fois pour montrer que la loi, les prophètes, la grâce acquièrent leur perfection dans la foi en la Sainte Trinité. La grâce du Saint-Esprit aux 7 dons est figurée dans ce nombre 14 qui est composé du nombre 7 répété 2 fois. D'accord ? En doublant ce nombre, l'écrivain sacré a voulu signifier que la grâce est nécessaire tout à la fois pour le salut de l'âme et pour le salut du corps. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parfois, hein. C'est bon, c'est une espèce de méditation mathématique de Saint Augustin. Il aime beaucoup jouer à ce jeu. Et les choses très belles, mais encore une fois, l'Église ne s'est jamais, nous a jamais imposé l'obligation de suivre cette, ces digressions mathématiques. On trouve surtout chez saint Augustin. En fait, les premiers pères aimaient beaucoup ça. Alors, j'ai mis d'autres explications juste en dessous. Anagogiquement, rappelez-vous que le sens anagogique, c'est le sens... c'est que le texte de l'Ancien Testament représente ce qui se passera à la fin du monde. Sens anagogique, trois sens, allégorique, moral, anagogique. Allégorique, l'Ancien Testament repose entre les nouveaux. Moral, sens tropologique, c'est le texte de l'Écriture Sainte représente ce que nous devons faire, nous. Sens anagogique, c'est pour la fin des temps. Donc voilà ce que disent ici, j'ai repris ce que disent les pères, ou certains pères en tout cas. Le nombre 42, donc des 42 générations. Le nombre 42 est composé du 6 et du 7, car 6 fois 7 font 42. Le 6 dénote les travaux de cette vie, les 6 jours de création, par lesquels nous atteignons le 7, le sabbat, du repos, de la félicité éternelle. Donc c'est le symbole du paradis. Car pendant les 6 premiers jours du monde, Dieu fit toutes les choses au ciel et sur la terre, mais au 7e jour, jour du sabbat, il se reposa de ses travaux. Le 3 donc, représente la foi en la Sainte Trinité, le 4 la doctrine évangélique et le 10 l'institution de la loi, les 10 commandements. Le nombre 14, qui se répète 3 fois, signifie la véritable religion. Car 10 et 14 indiquent l'Ancien et le Nouveau Testament. Le chemin qui mène à Dieu est prêché par les 10 commandements de la loi et les 4 évangiles. Donc les 4 évangiles résument en quelque sorte toute la loi ancienne, qui va être en quelque sorte... qui va passer à l'étage supplémentaire, à l'étage supérieur, par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il va prendre, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre toute la loi ancienne et va la surnaturaliser en quelque sorte par l'arrivée de l'âge de la grâce. Donc l'âge de la grâce va rendre caduque toute la loi ancienne. Non pas les commandements, mais toutes les purifications, par exemple, de la loi ancienne qui était très compliquée. Mais les commandements, bien sûr, restent. D'accord ? Nous devons donc consacrer ce qui conduit à la Trinité, c'est-à-dire à Dieu, parce qu'aucun commandement ne peut être rempli sans ce nombre, que ce nombre soit préservé dans l'adoration de Dieu. D'accord ? Voilà. Ça, je vais vous donner ça comme exemple. Encore une fois, on n'est pas du tout obligé de suivre ces digressions mathématiques. Alors, par ce nombre, même nombre, donc Ézéchiel, qui est un des grands prophètes, les 4 grands prophètes, Ézéchiel enseigne que la 14e année après la destruction de la cité de Jérusalem, une nouvelle cité, l'Église, sera fondée par le Christ, né et mort à la 14e génération après la destruction de Jérusalem par les Chaldéens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le passage de ces générations montre le passage par différentes étapes pour arriver à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est l'étape de la glorification. Donc le passage de la loi à la grâce, et ensuite le passage de la grâce à la gloire. Arrive à la gloire, on a contact avec notre Seigneur Jésus-Christ de façon définitive, on ne peut pas aller plus haut. D'accord ? Alors, verset 18, je vais finir ça aussi, on va avancer un petit peu quand même, sinon on n'arrivera jamais au bout. Verset 18 du chapitre 1 de saint Matthieu, la naissance du Christ eut lieu ainsi. Marie, sa mère étant mariée à Joseph, avant qu'ils habitassent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu de l'Esprit Saint. Donc c'est clair, elle était mariée, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Donc ceux qui disent qu'ils vivaient déjà ensemble ont le texte sacré contre eux, c'est faux. Ceux qui disent qu'ils n'étaient que fiancés et pas mariés, c'est faux aussi. Donc elle était mariée. Là j'ai dû changer j'ai repris le texte de Fillon, mais Fillon a fait l'erreur aussi en mettant fiancé. Et ça, c'est pas normal. Donc ils n'étaient pas fiancés, mais mariés. On retrouve, je pense qu'on retrouve la même erreur aussi dans la traduction Crampon. Je l'ai là, je vais vérifier. Comment Crampon a-t-il traduit ? Donc, chapitre Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Saint Matthieu 1, 18. Vous voyez, là, ils ont mal traduit. En fait, c'est pas une mauvaise traduction, c'est complètement illogique. Voilà comment on traduit Crampon, qui est une bonne traduction en général. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, il se trouva avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son mari qui était juste. Alors, il faut savoir, ils sont fiancés ou non. Donc en fait, quand on utilise le, quand les crampons ou filles utilisent le mot fiançailles, ils donnent le fiançailles le sens de mariage. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout dans notre vie de tous les jours, on fait la distinction entre les choses et ces termes qui avaient un sens différent pour nous, pour de leur temps, le sens a changé, si vous voulez. En français, il ne faut plus traduire en disant qu'ils étaient fiancés, parce que le texte tel que, voilà le texte de Crampon, « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. » Ça insinue que, bien qu'ils soient fiancés, ils avaient le droit de vivre ensemble. Ce qui n'est pas le cas du tout. Ils n'étaient pas fiancés, ils étaient mariés. Donc ils avaient le droit de vivre ensemble, ils ne vivaient pas encore ensemble. Vous voyez, il faut faire attention parce que, encore une fois, c'est pour ça que les explications doivent être données. Là, c'est clair et net, ils étaient mariés. Donc j'ai le texte ici des pères. Les pères sont battus justement pour ça, avec raison. Donc voici le texte des pères qui est donc au milieu de la page 7 du Polycarpe. Pourquoi donc Jésus est-il conçu d'une vierge mariée et non pas d'une vierge dans l'état ordinaire, c'est-à-dire une vierge qui était seule, d'accord ? Eh bien, les pères vont répondre en quatre points. D'abord, pour que l'origine de Marie fût prouvée par la génération de Joseph, donc qui était mariée à Joseph. Second lieu, pour ne pas l'exposer être lapidée par les Juifs comme adultère. Parce que si elle n'était pas mariée et qu'elle a eu un enfant, c'était l'adultère ou la fornication. Troisièmement, afin qu'elle eût un soutien, un consolateur pendant la fuite en Égypte. Donc ils ont passé, comment on verra ça après, donc c'est 9 ans en Égypte, 9 années en Égypte, il a fallu une protection, Saint Joseph a donné cette protection. Et Saint Ignace, martyr, donne une quatrième raison. Ce fut, dit-il, afin que la naissance du Christ demeura voilée pour le démon, qui le croyait ainsi né d'une femme mariée et non pas d'une vierge. Donc jusqu'au bout, jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le démon n'était pas sûr que le Christ était Dieu. Et s'il l'avait su, il n'aurait jamais poussé les Juifs à le crucifier. Parce qu'en fait, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin du règne du démon. D'accord ? Et donc, le démon, disent les pères, ne savait pas exactement. Il voyait que c'est un prophète, qu'il faisait des miracles extraordinaires, mais était-il Dieu ou non ? Il ne savait pas. D'accord ? Alors, nous voyons bien ici que, justement, vous voyez, tous les mots ont de l'importance dans l'Écriture sainte. Surtout ici, donc ce mot de mariée, elle était mariée et pas fiancée. Je vous donne ici les textes. Donc, ce qui là va être insinué par le texte sacré, le texte de Saint Matthieu, c'est que la très sainte Vierge Marie, étant mère d'un enfant qui est homme et Dieu à la fois, peut vraiment être dite mère de Dieu. C'est que l'Église a attendu un bon bout de temps avant finalement de, peut-être pas le concile d'Éphèse, en 400, je ne sais pas la date avec moi, je crois que c'est 432, quelque chose comme ça, début du 5e siècle, où la très sainte Vierge Marie a été associée à un mot grec spécial, Théotokos, mère de Dieu. Au début, l'Église le croyait, l'enseignait déjà, mais c'est pas très bien comment il y a une, si vous voulez, une évolution dans le bon sens du dogme, dans le sens que le dogme a été de plus en plus expliqué. Donc, ce qui est derrière ce mystère, qui est déjà annoncé ici dans le texte sacré, c'est que la très sainte Vierge Marie est véritablement mère de Dieu. D'accord ? Bien que nos mères ne soient que les morts, les mères de nos corps, elles sont regardées comme ayant enfanté l'homme tout entier, pas simplement la chair. Quelque chose de semblable s'est passé dans la naissance de l'Emmanuel. Le Verbe de Dieu est né de la substance du Père, parce qu'il est Dieu. Cependant, comme il a pris une chair humaine et se l'est rendu propre, il faut reconnaître qu'il est véritablement né d'une femme selon la chair, et comme il est réellement Dieu, comment hésiter à proclamer la Sainte Vierge mère de Dieu ? Donc elle est mère d'un enfant qui est homme et Dieu. Donc le nom de Marie, là il y a certaines notes intéressantes, c'est pour ça que je les ai mises dans le texte. Le nom de Marie en hébreu signifie étoile de la mer. En syriaque, c'est une dérivation de l'hébreu. Maîtresse, parce qu'elle a enfanté et la lumière du salut et le Seigneur du monde. Donc certains pères font remarquer que la très sainte Vierge Marie avait pour époux un ouvrier qui travaillait le bois, en figure de ce que Jésus-Christ devait opérer le salut du monde sur le bois de la croix. Alors, les pères sont aussi posé la question de savoir pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu naître d'une vierge. Justement pour montrer l'importance de la virginité. C'est en bas de la page 7. Le Christ a voulu naître d'une femme qui eût conservé sa virginité parce qu'il était contraire à toute idée de justice que la volupté donna le jour à la vertu, la luxure à la chasteté, la corruption à la sainteté, et aussi parce que celui qui venait renverser l'antique empire de la mort ne pouvait descendre du ciel que d'après les lois d'un ordre nouveau. La mère du roi de chasteté devait donc être la reine de la virginité. Le Seigneur voulut encore se choisir une habitation virginale pour nous apprendre à porter Dieu dans un cœur chaste. Donc là, on voit l'importance de la vertu de virginité, la virginité consacrée. L'Église a toujours enseigné que l'état de virginité était supérieur à l'état matrimonial. Donc l'état matrimonial est un bon état, voulu par Dieu, mais l'état de vie religieuse, consacrée donc par la virginité, est un état supérieur. D'accord ? Alors, là j'ai mis les textes, donc c'est les textes des pères aussi, qui prouvent que la Vierge était mariée. Donc, reprenant les textes des différents évangiles, on voit très bien qu'à chaque fois, le texte sacré, donc écrit sous la dictée du Saint-Esprit, montre bien qu'on parle de deux époux. Joseph est appelé époux de la Vierge Marie. Page 8 en haut. Joseph songeait à la renvoyer, car elle portait un enfant. Il avait donc prise pour épouse, car personne ne peut renvoyer ce qu'il n'a pas. D'accord ? Donc le terme utilisé en Saint-Luc, chapitre 2, verset 5, desponsata, en féminin, ça signifiait marié. Donc, Joseph l'appela son épouse, donc ils étaient mariés. Vous voyez, tout ça, c'est des preuves que la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph étaient mariés, pas fiancés. Elle était déjà mariée, introduite dans la maison de son mari, Joseph, afin qu'il puisse témoigner de sa virginité comme gardien, nourricier à la fois de Marie et de l'enfant Jésus. Donc Jésus, notre Saint Joseph, pardon, est le protecteur de la virginité de la Sainte Vierge. Donc, enfin, quatrième point, considérez également que la très sainte Vierge Marie, aussitôt qu'elle eut entendu le message de Gabriel, étant maintenant mère de Dieu, visita Élisabeth et demeura avec elle pendant 3 mois. On n'entend pas parler de la célébration d'un mariage avec Joseph dans ce retour, après son retour à Nazareth. Il n'y a aucune trace d'un tel événement. Donc, ce mariage, donc, eut lieu avant le passage de Gabriel, le message de Gabriel, l'incarnation du Verbe. La Sainte Vierge Marie était mariée. Donc, c'est pas quelque chose de.
Et quand elle dit qu'elle n'a pas connu l'homme, elle voulait dire.
Elle n'a pas connu d'homme, ça veut dire qu'elle était vierge. Ça veut pas dire qu'elle n'était pas mariée. Okay. Bon, on va arrêter là. Donc, ça c'est important parce que une chose qui frappe chez les modernes, justement, cette insistance qu'ils ont à toujours vouloir dire qu'ils étaient fiancés. Et on sent très bien que c'est déjà une étape pour la destruction du mariage. Donc aujourd'hui on est combien ? 13, c'est ça ? 13-02-2018. Donc si Dieu veut, un prochain cours. Donc mardi prochain. Donc jeudi prochain, il y aura un cours. Normalement, c'est terminé, vous terminez, on verra. De Saint Thomas d'Aquin. On va terminer par une prière. Oups. Ben, je voulais aussi rappeler avant la prière donc, que demain c'est mercredi décembre, donc il y a jeûne et abstinence, jeûne pour tout le temps du carême, sauf le dimanche, et abstinence, donc pas de viande, des jus de viande, le mercredi décembre, le mercredi des quatre temps, le samedi des quatre temps et tous les vendredis. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.